chapitre 3 de la venue des elfes et de la captivité de Melkor. Durant de longs âges, les Valar vécurent heureux à la lumière des deux arbres au-delà des montagnes d'Aman, mais toute la terre du milieu se trouvait dans la pénombre sous les étoiles. Au temps où brillaient les lampes, des choses avaient commencé d'y pousser. À présent, leur croissance était entravée, car l'obscurité était revenue. Mais déjà les plus anciens êtres vivants étaient apparus. Dans la mer, les grandes algues, et sur la terre, l'ombre des grands arbres. Et dans les vallées des collines enveloppées de nuit, rôdaient de sombres créatures, robustes et anciennes. En ces terres et ces forêts, les Valar venaient rarement, sinon Yavanna et Oromée. Et Yavanna s'y promenait parmi les ombres, regrettant l'efflorescence et la promesse avortée du printemps d'Arda. Et elle mit en sommeil bien des choses qui avaient surgi lors du printemps, afin que ne vieillissent pas jusqu'à une heure d'éveil encore à venir. Dans le nord, toutefois, Melkor consolidait sa force, et il ne dormait point, toujours vigilant et affairé. Et les choses mauvaises qu'il avait perverties allaient au dehors, et des monstres et des formes terribles hantaient les bois sombres et assoupis. Et à Utumno, il rassembla ses démons, les esprits qui s'étaient attachés à lui au temps de sa splendeur et qui s'étaient corrompus à son exemple. Leur cœur était de flamme, mais ils étaient voilés de ténèbres, et la terreur les précédait. Ils maniaient des lanières de feu. Ce sont eux qu'on nomma Balrog, en terre du milieu, beaucoup plus tard. Et en cette époque sombre, Melkor produisit beaucoup d'autres monstres en forme et en sortes diverses qui longtemps troublèrent le monde, et son royaume ne cessa alors de s'étendre vers le sud de la terre du milieu. Et Melkor bâtit aussi une forteresse et une armurerie non loin des rivages nord-ouest de la mer, afin de contrer tout assaut éventuel venu d'Aman. Cette place forte était sous l'autorité de Sauron, lieutenant de Melkor, et elle se nommait Angband. Il arriva que les Valar se réunirent en conseil, car ils s'étaient troublés des nouvelles que Yavanna et Oromée rapportaient des terres extérieures. Et Yavanna parla devant les Valar, disant « Ô puissant Darda, la vision d'Ilúvatar fut brève et bientôt retirée, et il nous est difficile de dire précisément quelle sera l'heure choisie. Mais soyez sûrs d'une chose, l'heure approche. En cet âge, notre espoir nous sera révélé, et les enfants s'éveilleront. Laisserons-nous donc les terres de leur séjour en proie à la désolation et au mal ? Marcheront-ils dans les ténèbres pendant que nous vivons dans la lumière ? Tiendront-ils Melkor pour seigneur alors que Manwë siège sur le Taniquetil ? » Et Tulkas s'écria « Neni, faisons la guerre prestement. N'y a-t-il pas longtemps que nous faisons trêve de querelle, et nos forces ne sont-elles pas revenues ? Laisserons-nous un seul opposant nous braver à jamais ?» Mais à la prière de Manwë, Mandos prit la parole, et il dit « En cet âge viendront les enfants d'Ilúvatar, certes, mais ils ne viennent pas pour l'instant. De plus, il est décrété par le sort que les premiers-nés viendront dans les ténèbres et contempleront d'abord les étoiles. Le plein jour annoncera leur déclin. C'est Varda encore et toujours qu'ils imploreront. » Lors, Varda quitta la place du conseil et elle regarda des hauteurs du Taniquetil et contempla les ténèbres de la terre du milieu sous les étoiles innombrables, faibles et lointaines. Lors, elle commença un grand labeur, le plus grand ouvrage des Valar depuis leur venue en Arda. Des rosées argentées qu'elle recueillit à même les cuves de Telperion, elle fit des étoiles nouvelles et plus brillantes en prévision de la venue des premiers-nés. Aussi, celle qui, aux profondeurs du temps et dans les travaux d'Ea, se nommait Tintalé, l'illuminatrice, acquit ensuite des elfes le surnom d'Elentari, la reine des étoiles. Carnil et Luinil, Nénar et Lumbar, Alcarinque et Elémiré, fit-elle en ce temps-là. Et elle réunit mainte autre étoile ancienne qu'elle ordonna en manière de signe dans les cieux d'Arda. Vilvarin, Telumendil, Soronume et Anarima. et Menelmakar à la brillante ceinture qui présage la dernière bataille attendue à la fin des jours. Et haut dans le nord, en signe de défi à Melkor, elle suspendit la couronne des sept étoiles glorieuses, Valakirka, la faucille des dieux, emblème de la fatalité. On raconte qu'au moment même où Varda achevait ses travaux, et longtemps ils durèrent, lorsque Menelmakar escalada le ciel une première fois et que la flamme bleue de Helwyn perça les brumes au-dessus de la lisière du monde, alors s'éveillèrent les enfants de la terre, les premiers-nés d'Ilúvatar. Près des flots étoilés du lac de Quivienen, l'eau de l'éveil, ils émergèrent du sommeil d'Ilúvatar. Et tandis qu'ils étaient encore silencieux au bord de Quivienen, ils contemplèrent avant toute chose les étoiles du firmament. C'est pourquoi ils ont toujours été épris de la lumière des étoiles et ont adoré Varda et Lentari devant tous les autres Valar. Dans les bouleversements du monde, la forme des terres et des océans a été brisée puis refaite. Le cours des rivières n'est pas resté inchangé, ni les montagnes immuables. Et aux eaux de Quivienen, il n'y a point de retour. Mais il est dit parmi les elfes qu'elle se trouvait loin dans l'est de la terre du milieu et vers le nord, et que c'était une baie dans la mer intérieure de Helkar. Et cette mer s'étendait là où plongeaient autrefois les racines de la montagne d'Ilúin avant que Melkor la renverse. Là-bas, de nombreux torrents se précipitaient des hauteurs de l'est, et le premier son qu'entendirent les elfes fut celui de l'eau courante et celui de l'eau ruisselant sur la pierre. Longtemps ils vécurent en leur première demeure au bord de l'eau sous les étoiles, parcourant la terre avec émerveillement. Et ils se mirent à parler et à donner des noms à tout ce qu'ils percevaient. Ils se nommèrent eux-mêmes les Quendi, c'est-à-dire ceux qui parlent avec la voix, car ils n'avaient encore rencontré aucun autre être vivant qui pût parler ou chanter. Et un jour, le hasard voulut, Colomé s'en fut chassé dans l'est, et il contourna les rivages de Helkar par le nord et entra dans l'ombre des Orokarni, les montagnes de l'est. Puis soudain, Nahar poussa un long hennissement et s'arrêta. Et Oromé s'étonna et se tint silencieux. Et il lui sembla que dans la quiétude du pays sous les étoiles, il entendait chanter au loin un chœur de voix. C'est ainsi que les Valar trouvèrent, comme par hasard, ce qu'ils espéraient depuis si longtemps. Et Oromé s'émerveilla de contempler les elfes, comme s'il s'agissait d'êtres soudains et prodigieux et inattendus. Car il en sera toujours ainsi des Valar. Pour qui pénètre en Ea de l'extérieur du monde, bien que toute chose ait été préconçue en musique ou annoncée en une lointaine vision, chaque chose à son tour sera considérée avec surprise comme un fait nouveau et imprévu. Au commencement, les aînés des enfants d'Ilúvatar étaient plus forts et plus grands qu'ils ne l'ont été depuis lors, sans toutefois être plus beaux. Car bien que la beauté des Quendi au temps de leur jeunesse surpassa toute beauté engendrée par Ilúvatar, elle ne s'est pas évanouie, mais subsiste dans l'ouest, et le chagrin et la sagesse l'ont enrichie. Et Oromé s'éprit des Quendi, et il les nomma en leur propre langue les Eldar, le peuple des étoiles. Mais à l'avenir, ce nom ne dut être porté que par ceux qui le suivirent sur le chemin de l'ouest. Pourtant, de nombreux Quendi furent terrifiés par sa venue, et cela était l'œuvre de Melkor. Car de ce qu'ils en ont su après, les sages affirment que Melkor, toujours vigilant, s'avisa le premier de l'éveil des Quendi, et qu'il envoya des ombres et des esprits malins pour les espionner et les assaillir. Il arriva donc quelques années avant la venue d'Oromé que si d'aventure un ou plusieurs elfes venaient à s'éloigner, ils disparaissaient souvent pour ne plus jamais revenir. Et les Quendi racontaient que le chasseur les avait pris et ils le craignaient. Et de fait, les chants les plus anciens des elfes, dont il demeure des échos dans l'ouest, parle de ces formes sombres qui arpentaient les collines au-dessus de Quivienen, ou qui voilaient soudain les étoiles, et du sombre cavalier qui, sur sa monture sauvage, prenait en chasse ceux qui erraient pour les capturer et les dévorer. Or Melkor détestait les chevauchés de Romé autant qu'il les craignait. Et soit il envoyait ses noirs serviteurs à cheval, soit il faisait courir des bruits mensongers afin que les Quendi fuient Oromé si un jour ils le rencontraient. Ainsi se fit-il que lorsque Nahr hennit et qu'Oromé les trouva en effet, certains des Quendi coururent se cacher, et d'autres s'enfuirent et disparurent. Mais ceux qui eurent le courage de rester s'aperçurent vite que le grand cavalier n'avait rien d'une forme ténébreuse, car la lumière d'Aman éclairait son visage, et tous les elfes parmi les plus nobles en sentirent l'attrait. Mais de ces malheureux piégés par Melkor, il est peu de choses que l'on sache avec certitude. Car qui entre les vivants est descendu dans les fosses d'Utumno ou a sondé les ténèbres du génie de Melkor? Ceci néanmoins est tenu pour vérité par les sages d'Eressëa que tous ceux des Quendi qui tombèrent aux mains de Melkor avant la destruction d'Utumno y furent jetés en prison, et par de lents et cruels artifices, corrompus et réduits en esclavage. Et ainsi Melkor engendra-t-il l'horrible race des orques, par envie et par moquerie des elfes, dont ils furent ensuite les ennemis les plus acharnés. Car les orques étaient doués de vie et se multipliaient tout comme les enfants d'Ilúvatar. Et rien de ce qui possède la vie ou une semblance de vie ne pouvait plus naître de Melkor depuis sa rébellion dans l'Ainulindale avant le commencement. Ainsi parlent les sages. Et au plus profond de leur sombre cœur, les orques haïssaient le maître qu'ils servaient dans la crainte, créateur de leur misère seulement. C'est là peut-être l'œuvre la plus infâme de Melkor et la plus odieuse à Ilúvatar. Oromé resta un temps parmi les Quendi, puis il chevaucha en hâte à travers terre et océan jusqu'en Valinor et apporta la nouvelle à Valmar. Et il parla des ombres qui troublaient Quivienen. Lors, les Valar se réjouirent, pourtant leur joie était teintée de doute, et ils débattirent longuement du meilleur conseil à prendre pour garder les Quendi de l'ombre de Melkor. Mais Oromé retourna sur le champ en terre du milieu et demeura parmi les elfes. Manwë médita un long moment sur le Taniquetil, et il sollicita le conseil d'Ilúvatar. Et sitôt descendu dans Valmar, il fit assembler les Valar dans l'anneau du destin, dont Ulmo lui-même, venu de la mer extérieure. Lors Manwë dit aux Valar, « Tel est le conseil d'Ilúvatar en mon cœur, que nous reprenions la maîtrise d'Arda, quoi qu'il en coûte, et délivrions les Quendi de l'ombre de Melkor. » Lors Tulkas exulta, mais Aulë fut peiné, pressentant les blessures que subirait le monde par suite de cette lutte. Mais les Valar s'apprêtèrent pour la guerre et sortirent d'Aman en force, avec la ferme intention d'assaillir les forteresses de Melkor et d'en finir. Melkor n'oublia jamais que cette guerre fut menée dans l'intérêt des elfes et qu'ils furent la cause de sa chute. Ils n'eurent pourtant aucune part dans cet assaut et savent bien peu de choses de la chevauchée de la puissance de l'Ouest contre le Nord au commencement de leur jour. Melkor fit front contre les Valar dans le nord-ouest de la Terre du Milieu, et toute cette région subit les pires ravages. Mais la première victoire des armées de l'Ouest fut rapide, et les serviteurs de Melkor fuirent devant elle jusqu'à Utumno. Lors, les Valar traversèrent la Terre du Milieu, et ils établirent une garde à Quivienen, et partant, les Quendi ne surent rien de la grande bataille des puissances, sinon que la terre trembla et gronda sous leurs pieds, et que les eaux furent déplacées. Et ils virent que le nord était illuminé comme par de grands incendies. Long et douloureux fut le siège d'Utumno, et maintes batailles eurent lieu devant ses portes, dont les elfes ne connaissent que la rumeur. En ce temps-là, la terre du milieu changea de forme, et la grande mer qui la séparait d'Aman s'élargit et se creusa. Et elle empiéta sur les côtes et s'épancha dans un profond golfe vers le sud. De nombreuses petites baies se formèrent entre le Grand Golfe et El Caraxé, loin dans le nord, où la Terre du Milieu et Aman se rapprochaient fort. Et parmi elles, la baie de Balar était de prime importance, et le grand fleuve Sirion s'y jetait depuis les hautes terres qui venaient d'être exaucées au nord, le Dorthonion et les montagnes entourant le Ithlum. Les terres de l'extrême nord furent entièrement désolées à cette époque, car Outumno y fut creusé à très grande profondeur et des feux brûlaient dans ses basses fosses où pullulaient les hordes des serviteurs de Melkor. Mais à la fin, les portes d'Outumno furent brisées et ses halles éventrées, et Melkor se réfugia dans l'ultime basse fosse. Lors, Tulkas se dressa en champion des Valar et lutta contre lui, et il le jeta face contre terre, et il fut mis au fer avec la chaîne Angainor, l'ouvrage d'Aolé, et emmené prisonnier, et le monde connut la paix durant un long âge. Néanmoins, les Valar ne découvrirent pas toutes les cavernes et les chambres fortes artificieusement dissimulées sous les forteresses d'Angband et d'Outumno. Bien des créatures maléfiques y rôdaient encore, et d'autres se débandèrent et s'enfuirent dans les ténèbres et hantèrent les lieux de désolation en attendant une heure plus néfaste. Et Sauron resta introuvable. Mais alors que la bataille prenait fin et que des nuées s'élevaient de la ruine du Nord pour occulter les étoiles, les Valar ramenèrent Melkor en Valinor, pieds et poings liés, les yeux bandés. Et il fut conduit à l'anneau du destin. Là, il se prosterna aux pieds de Manwë et implora son pardon. Mais sa prière ne fut pas reçue, et on le jeta en prison, dans la ferté de Mandos, dont nul ne peut échapper, ni Vala, ni Elf, ni homme mortel. Vaste et inexpugnable, ses halles se trouvent dans l'ouest de la terre d'Aman. Melkor fut condamné à y rester 3 âges durant, avant que sa cause fût de nouveau entendue ou qu'il redemandât pardon. Lors, les Valar furent de nouveau réunis en conseil et leurs avis étaient partagés, car d'aucuns, Ulmo le premier, soutenait qu'il fallait laisser aux Quendi le loisir d'aller à leur gré en terre du milieu et, grâce à leur don d'habileté, d'ordonner toutes les terres et de soigner leurs maux. Mais la plupart craignaient pour les Quendi dans le monde hasardeux parmi les dangers du crépuscule étoilé. De plus, ils étaient épris de la beauté des elfes et désiraient leur compagnie. À la fin, donc, les Valar convoquèrent les Quendi en Valinor afin qu'ils y soient rassemblés au pied des puissances et à jamais dans la lumière des arbres. Et Mandos brisa son silence, disant « Tel est le décret du destin ». Cette convocation fut à l'origine de nombreux malheurs à venir. Mais les elfes, au début, refusèrent de répondre à l'appel, car ils n'avaient encore observé les Valar que dans leur furie guerrière, sauf Oromë, et ils étaient emplis de crainte. Aussi Oromë leur fut de nouveau envoyé, et il choisit parmi eux 3 ambassadeurs pour aller en Valinor et parler en leur nom. Et ce furent Ingwë, Finwë et Elwë, les futurs rois. Et à leur arrivée, ils furent subjugués par la gloire et la majesté des Valar, et ils aspirèrent aussitôt à la lumière et à la splendeur des arbres. Puis Oromë les ramena à Quivienen, et ils parlèrent devant les leurs et les pressèrent de répondre à l'appel des Valar et d'aller s'établir dans l'ouest. Alors survint la première séparation des elfes. Car le peuple d'Ingwë et la plupart des gens de Finwë et d'Elwë se laissèrent persuader par les paroles de leur seigneur, consentant à partir et à suivre Oromë. Et depuis lors, ceux-ci ont toujours été appelés les Eldar, du nom qu'Oromë donna aux elfes dès la première heure en leur propre langue. Mais nombreux sont ceux qui refusèrent, préférant la lumière des étoiles et les grands espaces de la terre du milieu à la rumeur des arbres. Et ceux-là sont les Avari, ceux du refus, et ils furent alors séparés des Eldar et ne devaient plus jamais les revoir avant que maints âges eussent passé. Les Eldar préparèrent alors une grande marche depuis leur première demeure dans l'Est, et ils étaient ordonnés en 3 cohortes. La moins nombreuse et la première à se mettre en route était dirigée par Ingwë, le plus grand seigneur de toute la race elfique. Il entra en Valinor et siège au pied des puissances, et tous les elfes rêvèrent son nom. Mais il ne revint jamais, et jamais plus il ne contempla la terre du milieu. Ces gens étaient les Vanyar. Ce sont les beaux elfes, les favoris de Manwë et de Varda, et rares sont les hommes qui se sont entretenus avec eux. Ensuite vinrent les Noldor, un nom de sagesse, le peuple de Finwë. Ce sont les elfes profonds, les amis d'Aulë, et les chants les ont célébrés car leurs combats et leurs peines furent longs et douloureux dans les terres du nord de jadis. Les plus nombreux vinrent en dernier et on les nomme les Teleri, car ils s'attardèrent en chemin et ils n'étaient pas tous décidés à laisser le crépuscule pour la lumière du Valinor. Ils adoraient l'eau, et ceux qui parvinrent enfin au rivage de l'ouest tombèrent amoureux de la mer. Ils devinrent ainsi les elfes marins, les Falmari, au pays d'Aman, car ils faisaient de la musique auprès des vagues déferlantes. Ils avaient deux seigneurs, car fort nombreux, Elwë Singolo, qui signifie gris-manteau, et son frère Olwë. Tels étaient les trois peuples de l'Eldalié, qui, passés enfin dans l'ouest absolu en l'époque des arbres, se nomment les Kalakwendi, les elfes de la lumière. Mais il en est d'autres parmi les Eldar qui entreprirent également la marche vers l'ouest, mais qui s'égarèrent au cours du long trajet, ou qui s'en détournèrent, ou qui s'attardèrent sur les rivages de la terre du milieu. Et la plupart d'entre eux étaient du peuple des Teleri, comme on le verra plus loin. S'ils vivaient au bord de la mer, ou erraient dans les forêts et les montagnes du monde, leur cœur n'en était pas moins tourné vers l'ouest. Ces elfes, les Kalakwendi, les nomment Umaniar, puisqu'ils ne vinrent jamais au pays d'Aman ni au royaume béni. Mais Umaniar et Avari, pris ensemble, reçoivent le nom de Morikwendi, les elfes de l'obscurité, car ils n'ont jamais contemplé la lumière d'avant le soleil et la lune. On raconte que lorsque les cohortes de l'Eldalié partirent de Quivienen, Oromë chevaucha à leur tête sur Nahar, son blanc coursier au sabot d'or, et contournant la mer de Elkar par le nord, les Eldar prirent peu à peu vers l'ouest. Devant eux, dans le nord, les nuées noires planaient encore au-dessus des ruines de la guerre, et les étoiles de cette région étaient occultées. Sur quoi, bon nombre d'entre eux renoncèrent et firent demi-tour, pris de peur, et sont oubliés. Longue et lente fut la marche des Eldar vers l'ouest, car les lieux de la terre étaient innombrables, harassés et impraticables. Et les Eldar n'avaient point de hâte, car ils s'émerveillaient de tout ce qu'ils voyaient, et de nombreux pays et rivières les retenaient. Et si tous étaient encore prêts à avancer, beaucoup redoutaient la fin du voyage plus qu'ils ne l'espéraient. Ainsi, chaque fois qu'Oromë les laissait pour vaquer à d'autres affaires, ils s'arrêtaient et ne se remettaient pas en marche qu'il ne revint pour les guider. Et il arriva qu'après maintes années à voyager ainsi, les Eldar prirent à travers une forêt et ils parvinrent à un grand cours d'eau, plus large qu'aucun qu'ils avaient encore vu. Et au-delà se dressaient des montagnes dont les cornes acérées semblaient percer la sphère des étoiles. Ce cours d'eau, dit-on, n'était autre que le fleuve que l'on nomma plus tard Anduin le Grand, et qui fut de tout temps la frontière des régions occidentales de la Terre du Milieu. Mais la chaîne de montagnes était celle des Ithaiglir, les tours de brume aux confins de l'Eriador. Sinon qu'en ce temps-là, elle était plus haute et plus terrible, érigée par Melkor pour entraver les chevauchées d'Oromë. Or, les Teleri demeurèrent longtemps sur la berge orientale de ce cours d'eau et n'en voulaient pas partir. Mais les Vanyar et les Noldor le traversèrent et Oromë les conduisit dans les défilés des montagnes. Et quand Oromë s'en fut allé, les Teleri levèrent les yeux vers les hauteurs ombreuses avec appréhension. Alors il y en eut un qui se leva au sein de la cohorte de Loué, laquelle allait toujours derrière. Lenwë était son nom. Il abandonna la marche vers l'ouest, entraînant dans sa suite un peuple nombreux, et descendit le grand fleuve vers le sud, et leurs semblables ne les retrouvèrent pas avant de longues années. Telle fut l'origine des Nandor, et ils formèrent un peuple à part, différent de leurs congénères, sinon qu'ils aimaient l'eau et vivaient surtout près des chutes et des torrents. Ils en savaient plus sur les êtres vivants, arbres et plantes, oiseaux et bêtes, que tous les autres elfes. Des années plus tard, Denethor, fils de Lanwë, reprit enfin le chemin de l'ouest et conduisit une partie de ses gens au-delà des montagnes jusqu'en Beleriand avant le lever de la lune. Enfin, les Vanyar et les Noldor franchirent Ered-Luin, les montagnes bleues, entre l'Eriador et le pays tout à l'ouest de la Terre du Milieu, que les elfes nommèrent plus tard le Beleriand. Et leurs compagnies de tête traversèrent le Val du Sirion et descendirent jusqu'au rivage de la Grande Mer, entre le Drengist et la baie de Balar. Mais lorsqu'ils la contemplèrent, une grande peur les envahit, et nombre d'entre eux se réfugièrent dans les bois et les hautes terres du Beleriand. Oromé les quitta alors, et il rentra en Valinor afin de prendre conseil auprès de Manwë. Cependant le cortège des Teleri passa les montagnes de brume et traversa les vastes contrées de l'Eriador, entraîné par Elwë Singolo, car il était impatient de retrouver le Valinor et la lumière qu'il avait contemplée. De plus, il ne voulait pas être séparé des Noldor, lui qui entretenait une grande amitié avec leur seigneur Finwë. Ainsi, après de nombreuses années, les Teleri franchirent à leur tour les Ered-Luin jusqu'aux régions de l'est du Beleriand, où ils s'arrêtèrent pour un temps dans le pays au-delà du fleuve Gellion.